Bonjour à tout le monde. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui rabâcher des choses que nous connaissons tous. Mais nous allons les rabâcher parce que l'apôtre Paul dit que cela nous est salutaire. Ce sont des choses qu'on connaît, mais qu'on a besoin d'entendre à nouveau. Maintenant, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, ben vous entendrez, vous apprendrez aujourd'hui. Mais pour la plupart, nous connaissons tous ce thème que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et étant donné que l'homme est sujet à oublier, alors aujourd'hui, nous allons faire un rappel et nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Et ensuite, nous irons dans Matthieu toujours, le chapitre 16. Alors, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. On peut même commencer à partir du verset 17. Jésus, prenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà un peu notre texte de base, mais nous allons un peu développer tout ça à droite à gauche dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous pouvons en tirer ici comme leçon. Alors, la Bible nous enseigne que Jésus va parler et il dit que quiconque entend les paroles que je dis et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui aurait bâti sa maison sur le sable. Et voilà que la Bible dit que les vents, les torrents, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Plusieurs vents vont vouloir bousculer cette maison. Plusieurs torrents vont vouloir ravager cette maison. Plusieurs pluies viendront. Ce n'est pas une pluie, mais plusieurs. Parce que la Bible dit, les vents, les torrents, les pluies. Voilà que cette maison va être éprouvée par beaucoup d'aléas climatiques, entre guillemets. Et il dit que si cette personne a bâti sur le sable, alors cette maison va s'effondrer. Mais si cette personne a au contraire bâti sur le roc, la maison va subsister. Et nous voyons que j'ai pris le passage du chapitre 16 pour mettre en parallèle parce que il y a un mot qui revient, c'est le roc. Ce mot roc revient au chapitre 7. Et il revient encore au chapitre 16. Et nous savons fort bien, si nous prenons la Bible dans Ésaïe chapitre 28, par exemple. Si nous prenons la Bible dans 1 Pierre 2, au verset 5, par exemple, la Bible nous enseigne c'est qui ce roc. Nous savons fort bien que ce roc ne peut être personne d'autre que Jésus. La Bible nous dit que le rocher qui suivait les Israélites dans le désert, le rocher dont ils buvaient au désert, ce rocher, ce roc, Pierre va nous dire plus tard dans 1 Pierre 2:5, ce rocher, ce roc, c'était Jésus. Parce que Jésus, c'est le rocher, c'est la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire a été fondée, éprouvée et mise à l'angle de la construction. Et toute la construction est dessus. Voilà pourquoi Jésus va dire que si tu bâtis sur le roc, alors le vent va venir, les torrents vont venir, les pluies vont venir, mais tu ne seras pas terrassé parce que, en vérité, tu seras bâti sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus. Ça veut dire que si ta vie est bâtie en Jésus-Christ, quand viendront les persécutions? Les vents peuvent symboliser les persécutions, les torrents, les problèmes, les difficultés de la vie. Et chose étrange, c'est que ces difficultés se trouvent partout. Ne croyons pas que ces difficultés se trouvent seulement dans le monde. Ces difficultés se trouvent dans le monde, ces difficultés se trouvent dans ton foyer, ces difficultés se trouvent dans ta famille, ces difficultés se trouvent dans ton travail, dans ton lycée, ces difficultés se trouvent dans ton église. Tu peux aller où tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras face aux difficultés de la vie, tu seras face aux aléas climatiques, les vents, les torrents, les pluies vont venir s'abattre sur toi. Parce que tout simplement, les pluies vont servir à déterminer si tu es bâti sur le roc ou si tu es bâti sur le sable. Quand je te regarde, je ne peux pas savoir. Tu me regardes, tu ne peux pas savoir. Bon, tu peux avoir des notions, mais tu ne peux pas être 100% sûr. Mais une chose qui va déterminer où tu es bâti, ce sera les aléas climatiques, les torrents, les tornades, le vent, la pluie, les tremblements de terre, toutes ces choses-là. Quand ça va s'abattre sur toi, on verra véritablement en qui tu es enraciné, sur qui tu es fondé, sur qui tu as bâti ta maison. Mais il faut de ces choses. Bien-aimé, on peut fuir comme on veut, on va toujours, toujours retrouver ces aléas climatiques. On va toujours les retrouver. Ne croyez pas que ici-bas sur terre, tout est rose. C'est pour cela que je bénis le Seigneur, parce que le jour où un bien-aimé m'a prêché l'évangile pour la première fois et où il m'a dit « Est-ce que tu veux l'accepter, le Seigneur ?» après m'avoir lu Ésaïe 53, j'ai fondu en larmes, bien-aimé, j'ai fondu en larmes comme une madeleine, comme on dit. Et il m'a dit, est-ce que tu veux le recevoir, ce Jésus? Parce que moi, je ne pensais pas que Ésaïe 53 était question de Jésus qui mourut pour moi. J'étais avant au clergé. J'ai fait ma première communion, confirmation, solennelle, tout ce que vous voulez. J'allais à l'église de temps en temps, j'écoutais pratiquement rien, mais j'étais là quand même. Et, frères et sœurs, je ne pensais pas que dans ma méchanceté, parce que j'étais méchant, qu'un homme pouvait mourir pour moi. C'était inconcevable pour moi. C'était inconcevable qu'on me dise que Jésus t'aime, ce n'est pas possible. Parce que moi-même, je sais ce que je faisais. Et sachant ce que je faisais, comment quelqu'un peut m'aimer au point de mourir pour moi? J'ai dit non, ce n'est pas possible. Et quand le frère m'a dit non, dans le chapitre ici, il est question de Jésus qui est mort pour toi. J'ai dit donc, il a subi tout ça pour moi. Craché au visage, pour moi. Flagellé, fouetté, percé. J'ai dit mais non, mais je suis méchant, mais pourquoi il a fait ça? Le frère il me dit, c'est parce qu'il t'aime. Bien aimé, j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un puisse m'aimer à ce point. Parce que je savais ce que je faisais. Bien-aimé, quand je faisais le Notre Père, le Je vous salue Marie, j'allais m'allonger comme ça. Les camarades, les copains, ils venaient, ils tapaient à la fenêtre de ma chambre. Jean, je me lève. Il y a une soirée, on y va ou quoi? Je viens de dire, je vous salue Marie, Notre Père et compagnie. Je m'habille vite fait, je pars, la débauche, c'est parti. Pourtant, je venais de dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh Marie! Mais j'étais parti en soirée. Parfois, je rentrais fatigué, mais comme mes parents m'ont donné une culture où je suis catholique, donc il faut prier, je vous salue Notre Père et compagnie. Parfois, je rentrais, j'étais bourré, j'avais fait la java toute la nuit, j'étais trop fatigué pour prier. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je ne disais, je m'allongeais sur le lit et je disais, 1, 2, 3, et c'est fini. Ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 1, 2, 3, et je m'endors. J'ai prié. J'étais trop bourré, trop fatigué pour aller prier encore. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. J'ai fait ma prière. Bien-aimé, et ce frère, il me dit que Jésus est mort pour toi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai fondu. J'ai pleuré et j'ai encore pleuré. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a dit une parole qui aujourd'hui me sert. Parce qu'il m'a prêché la vraie parole. Il m'a dit, Jean-Yves, bienvenue dans ce milieu de requins. Je n'ai pas compris tout de suite. Peut-être que tu ne comprends pas non plus ce que je suis en train de dire. Je vais t'expliquer. Il me dit, Jean-Yves, bienvenue dans ce milieu de requins. Un milieu de requins. Moi, je connais un requin, un grand pêcheur comme moi. Je connais très bien un requin. Mais pourquoi dans ce milieu de requins? Je ne comprends pas. Et là, je suis nouvellement converti. Vous savez, les nouveaux convertis, comment ils sont, hein? Nous qui avons fait l'expérience. On est au ciel, la tête, elle est au ciel là-bas. On n'est plus sur terre. Mais petit à petit, les réalités nous rattrapent et on redescend sur terre. Et là, maintenant, notre foi va être mise à l'épreuve. Et c'est là maintenant que tu vas être un homme de foi ou une femme de foi. Tu vas devoir marcher par la foi. Parce que tant que tu es nouvellement converti, tu as l'impression que tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Tout le monde est mignon. Oh, c'est formidable. Mais après, il faut redescendre. Et c'est quand tu vas redescendre, tu vas observer que, oh là, c'était pas vraiment ça. Et c'est là que tu auras besoin de persévérance. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de persévérance. Il faut s'acharner après son objectif. Et c'est pour cela que Jésus va dire que le royaume a été forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, on n'est pas chrétien pour rester assis tranquillement et croire que tout va tomber du ciel. On est là, on se la coule douce. La pluie va venir, frères et sœurs. Les torrents vont venir. Mais toutes ces choses, c'est bénéfique pour toi et bénéfique pour moi. Parce que ça va nous qualifier pour le ciel. Quand le Seigneur tu vas paraître devant le Seigneur, il va dire, bien, fidèle serviteur, fidèle servante. J'ai vu les torrents. J'ai vu les pluies qui se sont abattues, mais tu es resté attaché, fidèle à ma parole. Combien ont fait naufrage aujourd'hui par rapport à la foi? Combien ont fait naufrage? Combien ont bien commencé et ont mal fini? Combien? Pourquoi? Parce que les torrents se sont jetés. Les pluies se sont jetées, et je dis les, parce que la Bible le dit. Les pluies se sont jetées, les vents, les torrents. Mais ils sont restés debout, enracinés, fondés. Frères et sœurs, plus tard, j'ai compris que, oh là, donc le frère, il avait raison. C'est un monde de requins. Frère, l'église, ce n'est pas une partie d'amusement, de baby-foot, comme on fait des fois là. Ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, c'est ce thème-là que nous allons débattre. Nous allons parler sur l'Église. L'Église. Nous avons eu des enseignements qui se sont succédés le panorama chrétien, c'est ça? L'environnement chrétien. Et dans ces enseignements, on nous expliquait qu'il faut s'attendre un peu à tout. Il faut s'attendre un peu à voir un peu de tout dans l'environnement chrétien, parce que nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et dans cet environnement, nous aurons de tout, bien-aimé. Et si toi, dans ta conception, tu veux que le bien, tu seras vite déçu. Parce que dans cet environnement, il y a de tout, frères et sœurs. Il y a des biens, mais il y a aussi des mâles. Il y a des bons, mais il y a aussi des méchants. Il y a de tout, frères et sœurs. Mais Jésus nous dit de laisser pousser le blé et le livrer en même temps. Ne n'arrachez pas, laissez. Parce qu'il y a de tout, frères et sœurs. On est sujet à tout entendre et tout voir. Et tout ça sert de quoi? De pluie. Tout ça sert de quoi? De torrent. Ça va nous aiguiser. Le fer aiguise le. C'est ce que Ecclésiaste nous a dit, un sage. Il a compris par la suite, avec tout ce qu'il a vécu, que le fer aiguise le fer. Bien-aimé, si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, que Dieu va bien utiliser, il faut laisser le fer t'aiguiser. Le fer aiguise le fer. Et dans les difficultés, c'est là aussi que tu vas apprendre à faire confiance à Dieu. C'est là aussi que tu vas apprendre à grandir avec Dieu. C'est là que Dieu va t'emmener dans le désert pour que tu sois seul à seul avec lui. Pour qu'il puisse t'enseigner, pour qu'il puisse t'éprouver aussi. Frères et sœurs, on en a besoin. Et l'Église, nous savons très bien que l'Église... Donc, comme je le disais tout à l'heure, le roc, c'est la personne de Jésus, bien sûr. Et voilà pourquoi il a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sous cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon église. » Donc, il parle de lui, là. Quand il dit Pierre, il parle à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, donc ce roc, il n'est pas question de Pierre, hein, là, il est question de lui-même. » Et nous voyons... dans le Vatican, où ils ont bâti sur, soi-disant, le tombeau de Pierre, je ne sais pas quoi, croyant que c'est Pierre, c'est la personne de Pierre. Il n'était pas question de la personne de Pierre quand Jésus va dire « Je vais bâtir mon église sur toi ». Ce n'était pas Pierre, l'apôtre, mais sur le roc. Or, le roc, c'est Jésus. Donc, il parlait de lui-même. Il dit « Sur ce roc, donc moi, je bâtirai mon église. » Et l'église est bâtie sur le roc qui lui-même est devenu la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle, bien-aimé. Et voilà que l'Église va être bâtie ainsi. Nous allons essayer de développer l'Église. Le premier point que nous allons prendre, nous allons comprendre dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus va dire, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc, il dit, sur ce roc, je bâtirai. Donc, qui bâtit l'Église? C'est Jésus. Bien-aimés, il faut que nous puissions, même si nous le savons, je le répète encore, parce qu'il faut qu'on comprenne comment ça marche, l'Église. L'Église, ce n'est pas une association loi 1901, je ne sais pas quoi, culturelle, je ne sais pas quoi, avec un président, avec tout un statut. Tout. Bien-aimés, détrompons-nous. L'Église n'a rien à voir avec ces choses-là. Ces choses-là servent seulement à être en règle avec le gouvernement qui nous dirige un peu, donc les lois, les textes de loi, on veut être quand même en règle. Mais spirituellement, comprenons bien que ce n'est pas un statut qui va diriger l'Église. Ce n'est pas une association culturelle, loi 1900, je ne sais combien, dirigée par des hommes qui va diriger l'Église, qui va bâtir l'Église, qui va construire l'Église, qui va édifier l'Église. Ça n'a rien à voir. L'Église est bâtie, la Bible dit, par Jésus lui-même. Il dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Mon église,
et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, nous comprenons par là que Jésus va bâtir son église à lui. L'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à quelqu'un. L'église, ce n'est pas l'église du pasteur un tel, de l'ancien ceci, de l'apôtre un tel. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il est le souverain berger. Ça veut dire que le berger des bergers, celui qui dirige tout, c'est lui. Parce que c'est son église à lui que lui-même, il a bâti.
Aujourd'hui, nous voyons dans le gouvernement qui nous... Les Français, comment le vieux Le Pen s'est fait éjecter dans un truc que lui-même il a fondé depuis des années. Allez, dégage. Ce n'est pas ça l'Église. Personne ne peut éjecter Jésus parce que c'est lui, c'est son Église à lui et il est le souverain berger de cette Église. Personne ne peut l'invincer, personne.
Alors quand vous entendez des pasteurs dire « dans mon église, il n'y a pas ça dans mon église. » Bien, hé, mon ami, tu n'as pas d'église qui t'appartient. Tu n'as pas d'église à toi. L'église appartient à Jésus. Il dit « Je bâtirai mon église. » Aujourd'hui, toi, tu veux prendre la gloire de Dieu? Mais nous allons voir comment Jésus a bâti cette église. Et si toi, tu serais capable de faire ça, ça m'étonnerait, honnêtement. Donc, nous comprenons par là que l'Église est bâtie par Jésus lui-même. Si nous restons terre à terre, quand on bâtit, quand on parle de bâtir quelque chose, vous voyez l'édifice ici, ça a été bâti par des hommes. Et pour bâtir, donc bâtir, c'est-à-dire construire, édifier, pour bâtir, il faut des matériaux, du matériau. Des matériaux, il faut, pas n'importe lesquels, parce que dans la construction, vous avez plusieurs types de matériaux. Vous avez le ferraillage, donc tout ce qui est ferraillage. Vous avez les parpaings, les agglos, etc. Vous avez les carreaux, vous avez le ciment, le sable. Vous avez plein de matériaux pour construire, pour édifier, pour bâtir. Et Jésus va bâtir, mais il a besoin de matériaux. Et je voudrais te dire que tu es considéré comme ces matériaux. Mais attention, quand on parle de matériaux, tu ne vas pas, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de la construction en bâtiment, tu ne vas pas bâtir une maison ou un édifice avec n'importe quoi. Ça veut dire que le ferrailleur, lui, il est spécialisé dans la ferraille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que cette poutre-là, il y a besoin de ferraille. Je dis un exemple, je ne connais pas trop. De 2 cm de diamètre pour passer la poutre ici. Donc, une tige de fer de 2 cm de diamètre. Il va mettre son ferraillage comme ça. Parce qu'il sait que la pression que ça va subir, il ne peut pas mettre une tige de fer de 1 cm ou 50 cm ou 0,5. Non, il a besoin de 2 cm pour la pression que ça va subir pour tenir. Bien-aimé, si ce ferrailleur se met à mettre du 1 cm là où il fallait mettre du 2 cm, vous pensez que l'édifice, ça va tenir? Non, ça ne tiendra pas. Parce que les matériaux sont mal utilisés. Les matériaux ne sont pas à leur place. Peut-être le 1 cm allait ailleurs. Et là, c'était le 2 cm. Là, il a échangé. Ça ne tiendra pas, bien-aimé. Et c'est ça, édifier, construire. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, ça veut dire que Jésus va utiliser des matériaux appropriés en fonction de ce qu'il va faire pour bâtir l'église. Nous sommes tous frères et sœurs, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas la même grâce. Tout le monde n'a pas le même travail à faire. Ce que Dieu peut demander à mon ami Ézéchiel, il n'est pas obligé de demander à mon frère Siméon. Là où Dieu peut emmener ma sœur là-bas, il n'est pas obligé d'emmener l'autre sœur là-bas au même endroit. Chacun a son objectif. Chacun a son rôle à faire, son travail à fournir. Bien-aimé, tu n'es pas dirigeant. Pourquoi tu veux diriger? Laisse les dirigeants diriger. Toi, fais ce que pourquoi tu es appelé. L'église, c'est ça, frères et sœurs. Les matériaux, c'est nous. Mais chaque matériau a sa place, bien-aimé, a son travail. Vous imaginez qu'aujourd'hui, là où l'architecte dit, bon, voilà, le ferrailleur, il dit, je vais mettre du 2 cm ici. Le fer dit, non, c'est du 1 cm qui va là. Et le fer ne veut pas aller là où il faut. Bien-aimé, l'édifice ne va pas tenir. Nous devons comprendre ça. Jésus qui bâtit. Deuxième point, il dit quoi? Jésus, dans Actes 2, 42, nous allons voir 7 points, voire 8. 7 points, voire 8. Donc, nous allons un petit peu vite. Alors, nous allons vite. Actes 2, 42, la Bible dit que « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les sauvés. » Le Seigneur ajoutait chaque jour dont l'église les sauvés. Ce n'était pas l'église des apôtres, hein, des Pierre, des Jean, des Jacques et compagnie. Hein. N'oublions pas que l'église, c'est son église. Et la Bible nous dit qu'il ajoutait chaque jour des sauvés dans son église à lui. Donc comprenons que c'est Jésus qui ajoute. Ce n'est pas que tu vas multiplier des prières, pourquoi que tu vas forcer la main de Jésus. Tu ne peux pas forcer la main de Jésus. Et j'ai vu ça, bien-aimé, de mes yeux. Mon père, il est décédé, ça fait 6 ou 7 mois maintenant. Et je me souviens, au début de ma conversion, j'ai pris l'avion parce que je me suis converti à Paris. Et je suis descendu sur Paris, sur la Martinique, pour aller évangéliser mon père. Après ma conversion, j'ai pris l'avion et je suis parti sur la Martinique pour aller évangéliser mon père. Parce que mon père, c'était quelqu'un de très dur, très très dur. Et ça fait plus de 19 ans. Que je lui prêchais, pendant pratiquement 19 ans, je parlais à mon père. Il ne s'est jamais converti. Mais, quelques mois avant sa mort, le monsieur, je lui parle de Jésus, il pleure. Et il me dit qu'il veut recevoir Jésus, il veut l'accepter. Il a donné sa vie à Jésus. Et c'est lui, même c'est lui maintenant qui me disait, viens prier avec moi, viens, on va partager la Bible. C'est lui. Pourtant, je ne pensais pas que ce monsieur, un jour, allait donner sa vie. J'ai dit, mais toutes ces années, le type, il n'a jamais bougé. Voilà que dans les derniers jours de sa vie, il se donne. Bien-aimé, et c'est là qu'on comprend qu'en vérité, les derniers seront les premiers. Le Seigneur a ajouté... Ce que moi je pensais, je dis, ah ce type-là, non, 19 ans quand même. Le Seigneur a ajouté. C'est le Seigneur qui ajoute, frères et sœurs. Le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous. Peut-être que tu ne connais pas ces gens, mais il y a des gens qui ont prié pour nous. Nous prions pour la France. Seigneur, fais grâce, la France, nous réclamons quelque chose. On m'a envoyé une vidéo où sur France 2, une femme témoigne comment Jésus l'a touchée, elle a quitté la drogue et compagnie. J'ai dit, mais cette femme-là, moi je ne la connais pas, nous on ne la connaît pas. Mais par nos prières, regardez ce qui s'est passé. Parce que nous on prie pour la France, vous et moi. Mais regardez ce qui s'est passé, bien-aimé. Est-ce que tu connais cette femme-là? Non. Mais Dieu l'a touchée. Il y a des gens qui ont prié pour toi, il y a des gens qui ont prié pour moi. Et le Seigneur a fait, aujourd'hui nous sommes là. Bien-aimé, il faut prier. Mais comprenons que le Seigneur, c'est lui qui ajoute à l'église les sauvés. Dieu, c'est lui qui ajoute les sauvés dans l'église. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui attire. Il dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est le Fils qui... Personne ne peut venir au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Personne. Il dit, qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Qui? Personne. « Je leur ferai s'approcher et ils viendront », il dit lui-même. Personne ne peut prétendre « je vais venir à Dieu ». Non, le Seigneur lui-même va t'attirer, le Seigneur lui-même va remplir son église, ajouter les membres à son église, lui-même. Nous continuons, ça c'était le deuxième point. Troisième point, l'église, dans Actes chapitre 15, verset 41, Actes 15, 41. La Bible nous dit que il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, nous avons vu que l'église est bâtie par Jésus. C'est Jésus qui lui, ajoute les sauvés dans l'église. Et là, maintenant, nous voyons que l'église a besoin d'être fortifiée, encouragée, soutenue. L'Église a besoin d'être fortifiée. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parcourait la Syrie, la Cilicie, qui fortifiait les églises. Et donc, si nous prenons le chapitre juste avant, le chapitre 14, il nous dit ceci au verset 21. Il nous dit quoi? Il nous dit, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que les apôtres vont faire? Les apôtres vont passer d'église en église pour fortifier les églises. Et quand la Bible dit fortifier les églises, ce n'est pas fortifier le mur. C'est fortifier l'esprit des disciples. C'est ça l'église. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le rassemblement de personnes qui ont donné leur vie véritablement à Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau. Et les apôtres, ils ne vont pas se contenter seulement de leur prêcher Jésus et puis se casser ailleurs. Non! De temps en temps, ils retournaient sur leurs pas et ils passaient dans toutes les églises et ils fortifiaient l'esprit des disciples. C'est-à-dire, ils fortifiaient les disciples, ils fortifiaient l'église. L'église a besoin d'être fortifiée. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des torrents qui se jettent contre l'Église. Il y a des vents qui se jettent contre l'Église. Bien-aimé, si l'Église n'est pas fortifiée, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ça risque de baisser en force. L'Église risque de baisser en force. L'Église a besoin d'être fortifiée. L'Église a besoin d'être restaurée. L'Église a besoin d'être régénérée. L'Église a besoin de puiser sa force en Jésus. L'Église a besoin d'être fortifiée. Bien-aimé, l'apôtre Paul passait d'église en église, fortifiant l'esprit des disciples. Mon ami, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire que le combat commence déjà en toi. Avant de regarder le diable m'attaque, toi-même déjà, comprends que dans ta tête là, il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois solide, bien-aimé, ici, là. La Bible dit pas que les apôtres fortifiaient la chair des disciples. La Bible dit pas que les apôtres fortifiaient les os des disciples. Ils fortifiaient leur esprit. Fortifiant l'esprit des disciples. C'est ça, frères et sœurs. L'Église a besoin d'être fortifiée. Tel que tu es assis là, tu as besoin d'être fortifié en Christ. Tu as besoin d'être soutenu, fortifié, encouragé quand ça ne va pas. Tu as besoin d'être fortifié. Et qui fortifie? Les apôtres qui passent d'église en église pour fortifier, bien-aimé. Pour fortifier. Accroche-toi. Garde le regard fixé sur Jésus. C'est lui la pierre angulaire. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Accroche-toi. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas le diable te voir en train de pleurer comme ça. Les chrétiens ont besoin d'être fortifiés. L'Église a besoin d'être fortifiée, bien-aimés. Nous-mêmes, entre nous, nous devons aussi nous fortifier, frères et sœurs. nous fortifier. Pourquoi? Parce qu'il y a les torrents, il y a les pluies. Nous fortifier. Besoin d'être fortifié. Actes chapitre 15, Actes chapitre 14. Nous voyons, nous continuons. L'église, dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, et nous sommes à partir du verset 28. Alors, il dit ceci. Alors, c'est Paul qui parle, hein, bien sûr. On peut même commencer un petit peu avant, hein, un petit peu au verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est, de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas crainte de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous allons au 28 et au 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, bien-aimés, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voilà, Paul va parler aux disciples, à l'église. Et Paul va leur dire que je vous ai tout dit, je ne vous ai rien caché. Mais voilà que je sais que, il dit, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. Et il dit, mais maintenant voici, je vais partir et vous ne verrez plus mon visage. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai tout annoncé, le conseil de Dieu. Et il dit au verset 28, il parle maintenant aux évêques. Il leur dit, les évêques, c'est-à-dire les anciens, les dirigeants, il leur dit, prenez soin du troupeau, paissez le troupeau, prendre soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque, ancien. Ce troupeau, cette église qu'il s'est acquise lui-même par son propre sang. Ça veut dire que Jésus lui-même s'est acquise l'église par son propre sang. Et là maintenant, il va faire quoi? Il va mettre sur cette église que lui-même s'est acquise des responsables, des évêques. Bien-aimé, l'église, c'est le quatrième point. L'église a besoin d'évêques, de dirigeants. Pourquoi? Pour la paître. L'église a besoin de responsables, de dirigeants pour paître l'église du Seigneur. Bien-aimé, comprenez bien, hein? Ce n'est pas l'homme qui lui-même décide d'être dirigeant pour paître l'église, non. La Bible dit que le Seigneur vous a établi. Comment? Le Seigneur vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc c'est le Seigneur qui vous a établi évêque pour paître. Ce n'est pas l'homme qui un jour va se lever pour dire, voilà, je suis un dirigeant, je vais paître, je vais... Non, non, non. C'est le Seigneur qui t'établit évêque pour paître. Et voilà pourquoi dans Jérémie, nous connaissons l'histoire de Jérémie, un jeune homme. Mais Dieu lui dit, il est dit dans Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi, consacré, prophète des nations pour paître mon peuple. Est-ce que Jérémie a fait des études compliquées pour aller chercher un titre quelconque, pour aller chercher une onction quelconque? Je ne sais pas. Rien, frères et sœurs. Avant même qu'il était encore, même pas encore dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré, établi. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, un jour tu te lèves comme ça, allez hop. Non, c'est Dieu qui établit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, on entend, il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être dirigeant. Tout le monde veut être responsable. Tout le monde veut conduire. Allez, on y va. C'est la Java. Bien-aimé, il n'en est pas ainsi. Bibliquement, la Bible nous dit que Dieu s'est acquis des évêques que lui-même va établir sur sa maison pour paître son église. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. On entend tout et n'importe quoi. Je me demande si Paul était toujours vivant de nos jours. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. On entend n'importe quoi aujourd'hui. Des groupes qui naissent par-ci, par-là. Allez, on n'a plus besoin. Tous nous sommes pareils. Bien-aimés, où tu as vu ça? Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtis mon église. Sur ce roc, je bâtis mon église. Et je te donne maintenant les clés du royaume. Pierre. Bien-aimés, vous pensez que si Jésus devait donner une clé à quelqu'un, c'est à Pierre? Ce n'était pas à Pierre, hein? Ce serait plus à Jean. Parce que c'est le disciple qui l'aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. C'est le disciple qui se couchait sous sa poitrine, qui entendait battre le cœur de Jésus. Je t'aime, mon enfant, je t'aime toute la journée. Mais il n'a pas donné, hein? Il a donné à Pierre. On va dire aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dirigeant, il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin de responsable, il n'y a pas besoin. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils où? Frères et sœurs, il faut un moment arrêter les bêtises et lisons la Bible. Il faut un moment arrêter de vouloir, ça c'est l'orgueil, ça c'est la convoitise, ça c'est la jalousie. Il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs. On va voir, ah, il est responsable, et ceci, et cela, parce qu'il a reçu, on l'a béni de quelque chose. Ah, tu vas commencer. Mais quand il souffle, est-ce que tu es là? Il faut arrêter les bêtises. Quand tu dors, tu as bien mangé, tu dors. Lui, il est là, en train de fléchir le genou dans le jeûne, la prière, pour toi. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. Tu parles. Tu cherches des problèmes, toi. Frère, il faut faire attention. On voit la partie. Je ne suis pas un grand français. Hein? Le français, je me débrouille un peu. Mais j'essaie de me faire comprendre. On voit la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a une partie immergée là. Tu ne vois pas ça? Dieu a établi des évêques, des responsables sur son église. C'est lui qui a établi sur son église pour paître. Maintenant, s'ils font mal le boulot, Dieu va leur demander des comptes. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Est-ce que c'est toi qui les as établis? Pour les juger n'importe comment? Pointer du doigt n'importe comment? Est-ce que c'est toi? S'ils tombent, Dieu va le relever. C'est lui qui l'a établi. Je ne parle pas de ceux qui se sont autoproclamés. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Frère, il faut faire attention, il faut aller doucement avec les histoires de Dieu. Là. Allons doucement. Il continue. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 15. Éphésiens. Verset 7. Il dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ce que je viens de dire là. À chacun de nous, Dieu a départi quelque chose. Tu n'es pas moi et tu ne seras jamais moi. Je ne suis pas toi et je ne serai jamais toi. Ce que je fais, tu n'es pas obligé de le faire. Ce que tu fais, je ne suis pas obligé de le faire. Mais une chose est sûre, nous avons un dénominateur commun, c'est le ciel. Il continue. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et voilà, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Voilà le but de Jésus. Frères et sœurs, Jésus lui-même, le grand Jésus, notre Seigneur là. Pourquoi quand il est venu sur terre, pour accomplir son ministère, pour faire l'œuvre de son Père, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher des apôtres, 12, 70 hein? Il avait besoin de... Qu'est-ce qu'il avait à aller chercher ces gens-là? Il ne pouvait pas faire ces histoires-là tout seul à lui. Le grand Jésus, hein? Là maintenant, il nous montre l'exemple. Et là maintenant, il part, il retourne auprès de son Père. Il laisse maintenant ceux avec qui il a fonctionné, il leur a tout enseigné et il est parti. Il les a laissés ici, sur terre, pour continuer le travail. Eux-mêmes vont voir comment leur maître a fonctionné. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans Acte 7 là-bas? Ils vont établir eux-mêmes après aussi quoi? Des diacres, des anciens, des responsables. Et après, eux, ils sont morts, les Paul, les Pierre, les Jacques. Mais la chose s'est perpétuée. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à établir. Frères et sœurs, ça marche comme ça. Dieu a établi des responsables. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas un électron libre qui va faire ta loi. Moi, c'est ma vision, c'est mon truc. Bien-aimé, si tu es là, sache que tu fais partie de l'église du Seigneur. Et dans l'église du Seigneur, le Seigneur a établi des dirigeants, des responsables pour paître son peuple, paître son église. Si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis. Mais aujourd'hui, on ne veut pas. C'est l'anarchie, frères et sœurs. Dans l'église aujourd'hui, c'est l'anarchie. Tout le monde veut. Bien aimé, David, un grand berger avec ses brebis. C'est lui qui les emmenait par-ci, par-là pour les faire manger dans les verts pâturages là-bas, de l'herbe. Tu as vu les brebis de David dire à David, bon, aujourd'hui, nous allons au nord-ouest, hein, parce qu'au sud, là, ce n'est pas bon. Tu as entendu les brebis parler à David pour dire non, moi je vais au sud-ouest. David, c'est lui qui emmenait la brebis là, il sait. Maintenant, le souverain berger, lui, il sait où il doit t'emmener. Il va parler maintenant à son berger qu'il a établi pour lui montrer ce qu'il attend de l'église, où il doit emmener l'église. Ce n'est pas à toi de faire ta loi. Bien-aimé, tu n'as pas de loi à faire. Ça ne veut pas dire que tu dois rester comme un mouton, ce n'est pas ça. On peut parler, on peut discuter. Mais imaginez, j'aime bien prendre des exemples terre à terre pour qu'on comprenne, bien-aimé. Imaginez. Dieu veut te parler à mon frère Ézéchiel. Excuse-moi, mon frère Ézéchiel, mais c'est toi, je sais que je t'aime bien. Dieu veut parler à mon frère Ézéchiel. Dieu va lui parler pour sa vie ou Dieu va lui parler. Ce n'est pas à moi que Dieu va parler pour dire à Ézéchiel, de dire à Ézéchiel comment diriger sa famille. C'est lui le chef de famille. Dieu va lui parler pour lui dire à Ézéchiel, voilà comment tu dois conduire ta famille. Dieu va lui parler, c'est lui le chef de famille. Ce n'est pas moi, je ne vis pas avec lui. Maintenant, si Dieu me parle, ça peut être une confirmation pour lui de quelque chose que Dieu lui a déjà demandé et qu'il cherchait une confirmation. Mais Dieu ne va pas me venir me dépêcher, mais lui, il sert à quoi? Eh bien, c'est bien aimé, c'est la même chose. Parfois, on a l'impression que les responsables, ce sont des poteaux indicateurs. Ils ne servent à rien. Donc, c'est les brebis qui dirigent l'église. Bien aimé, je me souviens une fois aux Antilles, une soeur vient me voir et me dit, Dieu m'a parlé. J'ai dit, oui, je t'écoute. Dieu m'a dit qu'il faut qu'on fasse 7 fois le tour de la salle le soir en tournant autour de la salle en criant, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ah bon? C'est bizarre, il ne m'a rien dit. Alors, est-ce que moi, je suis un poteau indicateur, je ne sers à rien? Et que c'est tout à toi maintenant qui passe pour donner les directives. Plus tard, il revient encore. Dieu m'a dit qu'il faut que tu changes la disposition de la salle pour mettre les chaises, non qui regardent dans ce sens, mais dans ce sens là-bas. Ah bon? Plus tard, il revient encore. Dieu m'a dit il faut qu'on puisse laver les pieds des frères et sœurs là, dans l'église, là qu'on emmène des bassines pour qu'on se lave les pieds. Mais tu me dis, attends, ce Dieu-là qui te dit là, mais comment se fait-il que moi-même, il ne me dit rien? Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Si Dieu établit quelqu'un, Dieu lui donne la vision, Dieu lui donne l'onction qu'il faut, Dieu lui donne le bâton, Dieu lui donne tout ce qu'il faut pour mener à bien sa mission. Comment Dieu maintenant va passer par X, Y et il ne lui dit rien? Ce n'est pas normal. C'est quoi ce Dieu-là? Il me dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as mis là. Mais pourquoi toi, tu ne me parles pas maintenant? C'est les autres. Je ne parle pas de ceux qui se sont autoproclamés, je le répète. Je ne parle pas de personnes, bishops là, qui se sont autoproclamés, qui... Non, je parle des véritables serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi quand Marie s'est levée contre Moïse, on a vu la conséquence après. Frères et sœurs, faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Ne croyons pas que Dieu ait changé. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Faisons attention avec ces histoires-là. Allons doucement. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, parlons. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, prions. Mais va doucement. Dieu a établi, c'est Dieu qui est... La Bible dit que il est monté, il est redescendu, il est descendu, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Un don, c'est quoi? C'est un cadeau, c'est une faveur, tu n'as rien mérité. Il fait un don aux hommes. Et ces dons-là, c'est qui? Des dirigeants, des pasteurs, des apôtres, des prophètes et compagnie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas me dire quoi? Ah, moi, il n'y a pas question d'anciens, il n'y a pas question de pasteurs, il n'y a pas question de ceci. Moi, je veux... Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que Jésus lui-même, il a menti. Jésus lui-même, il a fait n'importe quoi. Parce que c'est lui qui fait ça. Frères et sœurs, continuons. La Bible nous dit quoi? Dans Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Romains chapitre 16. Donc c'est un point sur lequel j'ai parlé un petit peu tout à l'heure que je reviens. Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Oui. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Qu'est-ce qu'on comprend par là? L'église, c'est quoi? L'église, ce n'est pas un bâtiment. On comprend ça. L'église qui est dans leur maison. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'église, c'est un rassemblement de personnes nées de nouveau, etc. Comme on a dit tout à l'heure. Donc, l'église, maintenant, est dans leur maison. Mais leur maison, ce n'est pas l'église. Ça veut dire que le bâtiment ici, ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi et moi. Et l'église peut être en mouvement. Aussi bien qu'elle peut être fixée quelque part pour que nous puissions nous retrouver. Donc quand on vient ici, l'église se déplace, l'église vient ici, nous sommes là. Mais ça peut aussi bien se déplacer. Et c'est pour ça que nous voyons dans Actes des Apôtres, par exemple, les gens, ils allaient prier au bord des rivières. Mais c'était l'église, frères et sœurs. À partir du moment où on se détache, on va prier quelque part. Parce que parfois, nous, on est un peu religieux, inconsciemment, je dirais. On pense que c'est ici que ça, tout se passe ici. Mes frères et sœurs, je voudrais aller plus loin. Même quand nous sommes en cellule, là, c'est ce que je dis souvent. Sachez que c'est l'Église, frères et sœurs. Nous, on dit cellule parce que c'est comme un détachement. Mais c'est l'Église. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de personnes nées de nouveau. À partir du moment où on se rassemble comme ça, là, c'est l'Église. Et voilà pourquoi il faut que nous puissions avoir un bon comportement. Parce que c'est l'Église. C'est l'Église. Donc, l'Église peut être dans un lieu fixe, mais l'Église peut aussi être un peu, je ne sais pas si je dois utiliser le terme itinérant, mais on peut se déplacer. Ça veut dire que si le culte ne se fait pas dans cette salle, on fait ailleurs, mais c'est l'Église aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas ici que ce n'était pas l'Église, on va prendre les choses à la légère. Non, c'est l'Église. Donc l'Église qui était dans leur maison. Oh, nous savons fort bien, quand l'apôtre Paul parle ainsi, l'Église qui est dans leur maison, il y avait aussi d'autres maisons. Il y avait aussi des chambres hautes. Il y avait aussi ailleurs où ils pouvaient se réunir. Ils étaient chaque jour au temple, assidus. Donc ça, l'Église peut être partout. Ça se déplace. Voilà. Donc on continue. Sixième point. L'Église, selon 2 Corinthiens 11 au verset 28, il nous dit quoi? 2 Corinthiens 11 au verset 28. L'apôtre Paul dit ceci, même au verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Bien-aimé, l'Église, nous voyons maintenant, l'Église peut être une source de soucis. Une source de soucis. L'Église peut être une source de soucis. L'apôtre Paul dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Pourquoi est-il assiégé, bien-aimé, par les soucis que donnent les églises? Parce que Paul, en tant que père spirituel pour toutes ces personnes qu'il encadrait, qu'il formait, qu'il enseignait, qu'il prêchait, souffrait de voir que ces gens ne veulent pas grandir, frères et sœurs. Nous avons été enseignés ici que celui qui augmente sa connaissance augmente son chagrin. Quand tu augmentes ta science, tu augmentes ton chagrin. Mais bien-aimé, c'est ça. Quand Paul voit que vous devriez déjà être des maîtres, vous en êtes encore au lait, comme des bébés en train de pleurer, de quémander, alors que vous devriez être des maîtres, il souffre. Il dit quoi dans Galates, chapitre 3? Il dit, je souffre pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants pour qui je souffre. Bien-aimé, vous avez déjà vu une femme souffrir quand elle enfante. Paul va dire, je souffre. Parce que Paul a une grande tristesse en lui quand il voit des personnes avec lesquelles il travaille depuis des années. Il dit, 3 ans j'étais là avec vous. Il travaille. Il dit, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des hommes faits. Mais voilà, vous êtes encore dans les disputes. N'êtes-vous pas charnel? Vous êtes encore dans les murmures. N'êtes-vous pas charnel? Je ne vous parle pas, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais comme des enfants. Parce que vous êtes encore dans toutes ces querelles, ces murmures, ces trucs d'enfantillage. Il dit, ah, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Il est assiégé, il est triste par rapport à ça, bien-aimé, de voir que les gens ne veulent pas grandir. Un sujet de tristesse, bien-aimé, l'Église, pour les dirigeants. Un sujet de tristesse. Assiégé, il dit. Il ne dit pas de temps en temps, il dit assiégé tous les jours. Tous les jours. Galates chapitre 4, verset 19 à 20. C'est de ce passage que je parlais. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs. Et dans Hébreux 13, verset 17, là aussi, il nous parle. Il nous dit quoi? Il nous dit, prenons, on va lire ça, c'est mieux. Hébreux chapitre 13, verset... Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit quoi? Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'ils soient ainsi, afin qu'ils se fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu au plus tôt. Il dit quoi? Il faut que nous puissions obéir à nos conducteurs, à ces dirigeants que le Seigneur a établis sur sa maison. Il dit pourquoi? Il dit, ayez pour eux de la déférence, du respect. Aujourd'hui, on voit que les responsables sont considérés comme des je ne sais même pas quel mot dire. Manque de respect envers les responsables que Dieu a établis. On pense qu'ils sont comme nous. Oui, c'est vrai. Mais ce sont nos responsables. Est-ce que toi, tu serais parti voir M. Hollande pour dire, oh Hollande, comment ça va, ça se passe? Bien-aimé, c'est ton responsable que Dieu a établi pour paître, te paître, me paître. Et aujourd'hui, tu penses que c'est ton pote. Tu viens, tu peux taper le dos, il n'y a pas de problème, mettre des petites tapes derrière la tête. Oh, ça va, toi, tu fais n'importe quoi ici, là. Ressaisis-toi. Eh, c'est ton pote. Ce n'est pas ton pote. Les comptes qu'ils devront rendre compte pour toi, ce n'est pas à toi qu'il va les rendre. La Bible nous dit quoi? Il va rendre compte à... Mais toi, tu blagues. Il va rendre compte à Dieu, frères et sœurs. On a trop de liberté. On pense que trop tout est permis. Frères et sœurs, fais attention, mon ami. Va doucement avec les histoires de Dieu là. On va doucement. On ne va pas édifier l'homme. On ne va pas, comme on dit, mettre Dieu, l'homme à la place de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais on va leur donner le respect qui leur est dû. Ce n'est pas ton pote. Il dit quoi? Il dit, ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Toi, tu ne dois pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas fort en français, mais moi, je comprends très bien ce qui est écrit là. Ils veillent sur vos âmes pour lesquelles ils devront rendre compte. Est-ce que tu t'imagines un instant que ton responsable se pointe devant le maître, le souverain berger, et puis qu'il doit rendre compte pour toi. Pendant que toi, tu es là, mais lui, il est en train de se faire lyncher parce qu'il est en train de rendre compte pour toi. Toi, tu crois trop que les choses sont faciles. Allez, on y va, c'est la Java. Il est en train de rendre compte pour toi. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas que mon responsable, il arrive à frapper le rocher au lieu de parler. Hein. Parce que Moïse a été excédé à un moment, il a frappé. Mais qui l'a fait faire ça? Le peuple bien-aimé. Le peuple a poussé Moïse à bout. Un homme avec lequel Dieu parlait de bouche à bouche. Le peuple a poussé. Il a craqué. Au lieu de parler, il a frappé. Dieu lui a dit, c'est fini. Il dit quoi? Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ça veut dire que là encore, il y a une source de problème qui vient. Une source de soucis qui arrive encore. Voilà que ton responsable va commencer à gémir. Au lieu de te paître avec joie, mais il gémit. Et quand il gémit comme ça, parfois il peut avoir le visage défait. Tu vas le tailler encore. Mais c'est pour toi qu'il gémit. Il dit quoi? Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est pas moi qui parle. Hein? Bien-aimé, c'est la Bible. Faisons attention avec l'histoire de Dieu. Hein? Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. avantage. Tu vas croire que quand Dieu parle ainsi, quand la Bible dit ces choses-là, c'est parce que tu veux être diminué pour élever l'homme. Détrompe-toi. C'est pas vrai. La Bible dit quoi? Sache que si tu maltraites ton responsable, je parle de ce que Dieu a établi, je ne parle pas de ceux qui se sont autoproclamés. Si tu maltraites ton responsable va commencer à gémir devant la face de Dieu, pleurer, crier à Dieu, se lamenter à cause de toi. La Bible dit, ce n'est pas moi qui dis, on l'a lu. Ça ne te sera d'aucun avantage, aucun. Et toi, tu peux croire que non, mais nous sommes tous pareils. C'est ce que toi, tu crois. Alors pourquoi, dis-moi, que Dieu dit que ça ne sera pas avantageux pour toi si jamais, voilà, il se met à se lamenter, à pleurer à cause de toi. Je parle des vrais. La Bible dit, ça ne vous sera d'aucun avantage, aucun avantage. Aucun avantage, ce n'est pas moi qui dis. Si je comprends mal, pardonnez-moi. Mais j'essaye de comprendre. Qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc ce n'est pas avantageux pour toi de maltraiter le responsable que Dieu a établi sur son église pour paître. Ce n'est pas avantageux pour toi. Nous continuons. Il nous dit quoi? Source de soucis, source de problèmes. Ben pour ceux, on en parlera peut-être un jour de tout ça. Et puis après, tu me diras si toi, tu as encore des envies, des désirs, je ne sais pas quoi, d'être un jour serviteur de Dieu. Tu vas me dire, quand on va parler, parce que quand Israël voulait un roi, Dieu lui a dit, bon, Samuel, c'est pas toi qui rejettes, hein, c'est moi. Ils ne veulent pas de moi. Donne-leur le roi qu'ils cherchent. Mais voilà, dis-leur que voilà les clauses du contrat quand ils auront ce roi-là. Dis-leur ça. Frères et sœurs, tu veux être serviteur de Dieu, ok. Voilà les clauses. Il faut que tu saches qu'il y a des clauses. Et puis on va voir maintenant si tu es d'accord ou pas. Il continue, il dit, septième point. Jésus est le chef de l'Église. Et l'Église est le corps de Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Jésus est le chef de l'Église, le chef suprême. Le chef suprême, ça veut dire que le grand chef, au-dessus, il n'y a pas. Le souverain berger, au-dessus, il n'y a pas. Jésus est le chef suprême de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Jésus. Ça veut dire que, comme Ève est sortie d'Adam, l'Église est sortie de Jésus. Ça veut dire que Jésus a accouché l'Église. Et Jésus a accouché l'Église comment? Par de grands cris. Bien-aimés, vous femmes qui avez enfanté, vous connaissez, même nous qui n'avons pas enfanté, on a une idée. Quand la femme enfante, mon frère, ma soeur, vous connaissez? Je suis très respectueux vis-à-vis d'une femme. Parce qu'une femme qui enfante, c'est quelque chose. C'est peut-être égoïste de ma part, mais je dis parfois, Seigneur, merci d'être homme. Je ne sais pas si j'aurais pu. Je ne sais pas. Mes soeurs, que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous faites là. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Ève est sortie d'Adam. Eh bien, l'Église est sortie de Jésus. Jésus a accouché l'Église. Jésus a enfanté l'Église. Il s'est acquis lui-même par son propre sang. Et bien aimé, la Bible nous dit que c'est par des cris, des pleurs qu'il a accouché l'Église pour toi, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, bien aimé. Et aujourd'hui, tu vas prendre l'Église pour un moulin. Cette Église qui s'est acquise, qui l'a accouchée par de grands cris, des larmes, des supplications. Bien-aimé, tu blagues avec Dieu. Je suis désolé de te le dire, tu blagues. Tu vas dire qu'aujourd'hui, l'église n'a pas besoin de dirigeants. L'église, si l'église... Bien-aimé, tu blagues avec Dieu. La Bible est claire. Il s'est acquis cela par son propre sang. Et toi, tu blagues. Jésus est le chef suprême de l'église. Il s'est acquis par son propre sang. Et pour finir, nous allons voir l'église, selon Éphésiens chapitre 5, verset 24. L'église est soumise à Christ. L'église est soumise à Christ. Ça veut dire que c'est Jésus qui dirige. Et c'est des points qu'on a parlé un petit peu, que je vais encore survoler, puisqu'on en a, on a déjà développé pratiquement. L'église est soumise à Christ. Ça veut dire que l'église, c'est Jésus la tête. C'est Jésus le patron. C'est Jésus qui donne les directives. C'est Jésus qui conduit son église. C'est Jésus qui reviendra chercher son église sans tache ni ride. C'est Jésus qui conduit, bien-aimé. Ce n'est pas un homme. Dieu nous a établis, Dieu a établi des responsables, Dieu a établi des hommes. Il leur a donné la vision, il leur a donné la provision aussi, il leur a donné l'onction, il leur a donné la grâce, il leur a tout donné pour diriger. Si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis. Il leur a tout donné pour le faire. Mais ne crois pas que l'église, c'est un homme qui a des rênes et qui dirige. On y va. Non, frères et sœurs, l'église est dirigée par le Seigneur. Et voilà pourquoi le dirigeant doit être lui-même en contact avec Dieu pour savoir comment, où Dieu veut emmener l'église. L'église, frères et sœurs, est soumise à Christ. Il nous dit comme la femme est soumise à son mari. Le mari doit aimer et la femme comme Christ a aimé l'église, s'est donné lui-même, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul nous dit, mon point final, comment maintenant il faut se comporter dans l'église. Alors, ces deux textes que nous allons lire pour finir, comment faut-il se comporter? Peut-être que tu as oublié ces choses. Peut-être aussi que tu n'as pas oublié, mais tu t'es endurci par rapport à ces choses. Mais voilà que Paul va nous donner deux points très importants, frères et sœurs, sur comment se comporter dans l'église. L'église, ce n'est pas un marché, frère. L'église, ce n'est pas un moulin. L'église, ce n'est pas une association, on vient pour... Non. L'église, c'est le corps de Jésus. Le corps du Christ. L'église, c'est profond, ça sort de Dieu. Personne ne peut dire, bon voilà, je suis chrétien, mais maintenant je prie chez moi. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ce n'est pas de la conception de Dieu. Sinon, pourquoi Jésus aurait enfanté l'église avec toutes ses larmes? Donc comprenons que ça ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. C'est le diable qui travaille comme cela pour isoler. Et après bien détruire. Frères et sœurs, quand nous sommes en communauté comme ça, on se chauffe l'un l'autre, on reste au chaud. Deux hommes dans un lit, deux personnes dans un lit, parce que deux hommes, on peut croire que deux personnes, un homme, une femme. Un homme, une femme dans un lit, même s'il y a l'hiver, ils vont se chauffer. Deux valent mieux qu'un. La corde à trois brins ne rompt pas facilement. Frères et sœurs, quand nous sommes comme ça, on est là en train de se chauffer. Mais quand tu vois que l'ennemi commence à te décaler pour t'isoler, avec toutes sortes de pensées, hein, parce qu'il va te donner des raisons, soi-disant, valables. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est conduit vraiment par le Seigneur, Dieu peut aussi lui demander de, par rapport à une mission bien précise. Donc, je ne suis pas en train de fermer la boucle. Non, ça peut arriver, mais souvent, ce n'est pas ça. Parce que quand on regarde la suite des événements, on voit qu'il y avait la mort au bout. Donc on comprend que ça, ce n'était pas Dieu. Parce que la mort était au bout. Le diable t'a eu. Frères et sœurs, quand tu prends le bâton, tu l'enlèves du feu, tu mets à côté, le feu va s'éteindre. Nous avons besoin de nous réchauffer ensemble, nous chauffer là comme ça, pour rester dans la chaleur, la présence du Seigneur. Voilà que Paul va dire quelque chose. Nous allons prendre ce texte dans 1 Timothée chapitre 3. Nous arrivons au bout. 1 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15. Il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses afin que avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc Paul parle à Timothée, son enfant, et lui dit, Timothée, mon enfant, je désire venir vous voir, c'est un fait. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire, comment il faut te comporter dans l'église du Dieu vivant. Et le Seigneur ne va pas nous laisser avec le comment, il va nous expliquer ce comment. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Voilà le comment, lisons. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est déjà un premier point. Marchez d'une manière digne, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, Philippiens 1, 27, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, les torrents, les vents, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Bien-aimés, jusqu'au bout, les vents vont venir, les difficultés et compagnie. Frères et sœurs, et l'apôtre Paul nous dit bien clairement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne ou soit que je sois absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. frères et sœurs, dans l'Église, il y aura toujours les combats. L'Église va subir des assauts du diable. L'Église va subir les coups de vent compliqués, la pluie, les tornades, de grosses averses. L'Église va être ébranlée, éprouvée dans tous les sens. Mais cela vient de Dieu. Parce qu'il faut qu'on voit qui est qui. Cela vient de Dieu. Il faut qu'on voit qui est qui. Et ce sera visible aux yeux de tous. Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas une partie de plaisir. On ne vient pas à l'Église pour dire, je viens me passer un petit temps pour, je vais apaiser un peu ma conscience, au moins j'ai été à l'Église. Ou bien on vient à l'Église parce qu'on est religieux. Ou bien on vient à l'Église parce qu'on attend, on espère quelque chose de Dieu. On vient à l'Église parce que j'ai vu un frère là-bas, j'ai vu une sœur là-bas, peut-être que. On vient à l'Église parce que, je ne sais pas, mes enfants sont pris en main, au moins ils ont une connaissance biblique, tout ça. Et puis bon, entre-temps, moi je suis un peu débarrassé d'eux. Non, on ne vient pas à l'Église pour ces raisons. L'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Si je tarde, tu sauras comment il faut te comporter. Frères et sœurs, il y a un comportement à avoir dans l'Église. L'Église, ce n'est pas un moulin. L'Église, ce n'est pas un marché. Le frère, il modérait tout à l'heure, il a dit, il faut chanter, danser, louer Dieu. Il ne faut pas avoir peur. C'est l'Église. Mais dans cette Église-là aussi, en même temps, il y aura des difficultés. Il y a la joie, mais en même temps, il y a les tristesses qui sont là. Parce que l'Église, c'est une source de tristesse pour les responsables. Quand tu vois que tu devais déjà être un maître et que tu es toujours là en train de faire le bébé, ça fait mal. Ça fait très mal parce que tu ne veux pas grandir. Que Dieu nous aide. Seigneur, c'est vrai. La Bible nous montre clairement que c'est toi qui as bâti ton Église, qui l'as instituée. C'est toi qui l'as fait sortir de nulle part et qui l'as emmené à l'existence. Seigneur, ces choses qui dans le temps passé, Seigneur, étaient étranges parce que la Bible dit que, Seigneur, que c'est par l'Église que même les anges voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils étaient avec toi depuis le commencement. Tu les as tous créés. Mais cependant, ils ne pensaient pas un jour voir ce qu'ils voient aujourd'hui au travers de l'Église. Mais souvent, Seigneur, nous manquons notre objectif. Souvent, Seigneur, nous nous laissons aller. Et comme il est dit, c'est à cause de nous que ton nom est blasphémé parmi les païens souvent. Nous voulons nous repentir ce matin. Nous voulons te demander pardon ce matin, Seigneur. Si nous avons pris l'Église pour un marché, si nous avons pris l'Église, Seigneur, Dieu de gloire, pour une association d'hommes où nous voulons gérer à la manière humaine, nous te demandons pardon, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous voyons, Seigneur, tellement de trafic dans ton Église, Seigneur. On entend parler de détournement de fonds. On entend parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tant d'abominations, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et nous te prions, Seigneur, d'éclairer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre, réaliser, saisir une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que l'Église? Tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est un terme qui signifie appeler hors d'eux. Oui, Seigneur, nous voulons être appelés hors du monde véritablement, Seigneur. Aide-nous, afin que nous puissions voir ta gloire, comme nous le chantons souvent. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Mais pour cela, Seigneur, tu dis que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Seigneur, permets que l'ordre revienne dans ton Église. Seigneur, je ne te prie pas uniquement, Seigneur, pour nous, cette assemblée locale, mais pour l'Église en général, Seigneur. Parce que lorsqu'on entend, Seigneur, les témoignages par-ci, par-là, Seigneur, Dieu de gloire, nous souffrons. C'est une tristesse, Seigneur. Nous te demandons grâce. Père, s'il te plaît, souviens-toi à Golgotha, Jésus, là où tu as crié,
là où tu as poussé ces cris, Seigneur, de douleur, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir la vie, que l'Église puisse prendre vie. Seigneur, ne reste pas insensible, Seigneur, à nos cris ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Et bon après-midi à tout le monde.